Je vous ai remis, donc, vous avez trouvé sur vos chaises un texte sur lequel nous allons méditer. Un texte qui est issu d'un petit livre que je crois vous pouvez trouver à la librairie, un petit livre écrit par Aline Lizotte, qui s'appelle « Le don des époux » et qui parle de cette question de la sexualité dans le couple. Et qui parle à partir de la théologie du corps de Jean-Paul II. Je vais vous dire peut-être quelques mots à partir de cette théologie du corps de Jean-Paul II, mais c'est intéressant de voir qu'au fond, l'Église a été quand même assez embarrassée, on peut dire, depuis pratiquement le début, avec saint Augustin et puis même saint Paul. Saint Paul qui dit, ben voilà, que celui qui brûle, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à se retenir, grosso modo, qu'il se marie, mais celui qui peut être continent, qui se donne au Seigneur. Et donc on voit que s'est développé dans l'Église des premiers siècles comme une vision du corps en général, parce qu'on va parler du corps, si on parle de la sexualité, évidemment on parle du corps, une vision du corps assez négative. Le corps prison de l'âme, et vous trouverez ça chez les néoplatoniciens, chez saint Augustin, etc. Donc une vision, quelque chose qui serait pas très propre, pas très clair, pas très spirituel. Et je trouve qu'avec Jean-Paul II, eh bien, nous avons eu une théologie du corps qui l'Église a trouvé des mots pour exprimer quelque chose qu'elle portait déjà en son sein, mais qu'elle n'avait pas su vraiment exprimer. Et surtout exprimer avec la parole magistérielle, la parole pontificale, donc avec toute cette force de cette parole. Et c'est très beau de voir que maintenant, nous avons il y a eu un vrai travail de fait, après des siècles quand même de regard négatif et sur la sexualité et sur le corps, eh bien, je trouve que l'Église a fait un beau travail avec cette théologie du corps qui n'est encore que peu connue, peu enseignée, peut-être parce qu'elle est aussi un peu compliquée, parce que précisément, eh bien, le pape a partir de sa propre expérience de pasteur, à partir de son travail intellectuel, eh bien, a permis de découvrir dans le corps, eh bien, quelque chose qui nous rapproche aussi de Dieu, et de découvrir dans l'acte intime des époux quelque chose qui est en lien avec l'amour du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien, une vraie continuité. Alors, je vous propose, on va commencer au deuxième paragraphe, là, un signe dans la chair, c'est un extrait de ce livre. Un signe dans la chair, vous pourrez lire le premier. Mais et je trouve ça assez éclairant, et puis on pourra un peu... donc en fin, en toute fin, les questions sont en fin de uniquement de la deuxième conférence, où là vous pourriez éventuellement poser vos questions. De voir au fond quelle est la vocation de la sexualité et quelle est la vocation du corps humain. L'amour conjugal, donc le deuxième paragraphe, l'amour conjugal... est constitutif d'une donation totale. Le corps de chacun des époux exprime leur manière de se donner. Le corps de l'homme, avec l'extériorité des organes sexuels, montre qu'il est appelé à habiter le corps de la femme. Le corps de la femme, marqué par l'intériorité des organes, montre sa capacité d'accueil, d'adaptation, de souplesse. L'amour est marqué par trois réalités: l'initiative du don, l'accueil du don, la fécondité. Alors, la première chose, c'est que, et je trouve ça important de dire, c'est que l'amour conjugal, quand on dit l'amour conjugal, c'est la relation intime des époux, est le signe d'une donation totale. Et le pape Jean-Paul II a rappelé justement cette vocation du corps. Notre corps a une vocation. Notre corps a même une mission. Et il dira dans une de ces passages de la théologie du corps que le corps a comme vocation de rendre visible l'invisible. Que ce soit pour l'amour des époux, dans le cadre de l'amour des époux, dans le cadre de l'union intime des époux, comme dans le cas, il fera la comparaison, et c'est très fort, comme dans le cas du Verbe incarné, où Jésus, qui est le Verbe de Dieu, qui a pris notre nature humaine, notre corps humain, rend visible l'amour invisible du Père. Donc de voir au fond qu'il y a une continuité entre l'amour invisible et le corps qui est visible. Notre corps a une vocation, notre corps a une mission. Et c'est dans cette expression, il y a une donation totale. Donner son corps, c'est pas simplement donner son épiderme. Et pour nous, le corps n'est pas simplement un amas de cellules. Donner son corps, c'est donner sa personne. Il y a donc un lien entre le corps et la personne. Et parce que le corps exprime la personne, alors on découvre aussi dans la personne, eh bien, cette capacité de don. Donc c'est important de dire que quand on dans la relation intime des époux, c'est les personnes qui sont en contact et à travers le corps manifestent le don et l'accueil du don à l'autre. Donc je trouve que c'est quelque chose de très beau. C'est que on en trouve d'autres exemples dans quelque chose de tout à fait autre. Par exemple, la vénération des reliques. Hein, donc ça, c'est un autre sujet, c'est pas le même sujet que celui d'aujourd'hui. La vénération des reliques, j'ai pensé ça, je me suis dit, dans la vénération des reliques, c'est aussi ça, à travers, vous savez, la vénération des reliques, donc on met un bout d'os du saint, et donc on vénère, on peut dire c'est un peu curieux comme tradition, mais je trouve que ça s'enracine dans cette réalité-là. Le corps, cette partie du corps de l'autre, nous rappelle la personne du saint, et c'est la personne du saint et la sainte l'exercice dans sa vie de l'amour et de la pratique des vertus théologales que nous vénérons. Mais quelque part, à partir du corps, on a accès à toute sa personne. Hein. Et de même, je trouve dans d'autres réalités, avec des enfants, par exemple, ou avec des personnes très lourdement handicapées, eh bien, c'est le contact avec le corps qui va me donner le contact avec la personne elle-même. Et donc, je crois que c'est important de se dire que dans cet amour conjugal, il y a vraiment un acte de don et d'accueil de don, comme dit Aline Lizotte dans ce texte, hein, l'extériorité et l'intériorité, le fait que la femme est habitée par l'homme, et c'est un lien certainement très fort. Elle a l'occasion d'expérimenter ça en deux opportunités. Premièrement, dans la relation intime des époux, mais aussi lorsqu'elle attend un enfant. Le fait d'être habité par le corps de l'autre. Ce qui me fait dire aussi une chose, peut-être, je crois que c'est le thème de la prochaine halte spirituelle, c'est que la femme, de par sa nature, a plus le sens de la personne, parce qu'elle a la vocation d'accueillir l'autre en elle. Hein, et je trouve, c'est pour ça que on voit beaucoup dans des métiers sociaux, par exemple, dans des métiers tournés vers la personne, on voit beaucoup de femmes impliquées. Parce qu'il y a quelque chose de naturel, de code naturel à la femme, que le sens de la personne, beaucoup plus qu'à l'homme, hein, qui est plus dans l'extériorité, dans la fabrication, dans l'efficacité, etc., qui a beaucoup moins le sens de la personne et moins le sens de l'amour. Hein, donc, c'est d'où l'importance de la femme qui a cette mission de rappeler l'amour à l'autre, hein, de lui rappeler, qui rappelle l'amour à son époux, hein, et à l'humanité en général. Hein. Donc, l'homme a transformé l'acte le plus saint en œuvre honteuse. Et c'est là où c'est important de dire, c'est que dans le corps de l'homme ou de la femme, il n'y a rien de sale. C'est dans notre cœur qu'il peut y avoir quelque chose de sale, ou dans notre regard qu'on laisse salir par des images. Et je parle pour vous qui la majorité d'entre vous êtes mère de famille. Mais voilà, le fait d'éduquer. Moi, je suis quand même très frappé dans les préparations au mariage. Je m'implique beaucoup dans la préparation au mariage. Je suis très frappé du fait que assez rarement, somme toute, on pourrait dire qu'aujourd'hui, avec Internet, avec la révolution sexuelle, etc., on parle de la sexualité facilement, mais il y a peu de paroles parentales données aux enfants sur la relation intime, sur la sexualité, et de dire aussi la beauté de ce geste. Hein, et donc c'est l'homme qui transforme, comme il est dit dans cette partie-là du texte, hein, l'homme qui transforme une réalité, l'acte saint, carrément un acte saint, en une œuvre honteuse. Pourquoi c'est un acte saint, l'union intime des époux? Ben, tout simplement parce que c'est un acte d'amour qui, et Jean-Paul II va même jusqu'à dire, qui manifeste aussi l'amour qui habite le cœur de la Trinité. Donc, on voit là comme l'amour, le don et l'accueil du don, hein, le don de l'homme à son épouse et l'accueil de l'épouse au don de son époux, dit l'accueil du don et cette fécondité, cette ouverture, fécondité dans les enfants, mais pas seulement dans les enfants, l'amour conjugal aussi est fécond parce qu'il fait grandir l'amour tout simplement des époux. Et c'est quelque chose qui est au service de la relation des époux. Je pense à quelque chose de particulier, mais comme c'est important, par exemple, parce qu'on se dit, oui, mais vous, mon père, vous comprenez, maintenant, nous, on a passé l'âge, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être dans les débuts, il peut y avoir une certaine fougue amoureuse, mais il faut toujours veiller que dans la relation matrimoniale, il y ait un langage des corps. Je me souviens comme ça de cette femme qui a une soixantaine d'années et qui me dit, voilà, pour raison médicale, son mari ne pouvait plus avoir de relation intime, elle ne pouvait plus avoir de relation intime. Et elle me disait, je sens qu'on s'éloigne petit à petit. Et donc il faut faire vraiment attention au langage du corps à l'intérieur même de la relation des époux. Et donc si la relation des époux, c'est un acte saint, parce que ça fait rayonner l'amour et ça fait les époux se rapprocher. L'inverse est aussi vrai. On va voir peut-être ce soir, cet après-midi, les menaces sur l'amour, quand on se sent utilisé, quand on se sent, et comme prêtre, j'ai parfois les confidences de femmes surtout, hein, qui voilà, se sentent bafouées aussi dans leur intimité, à l'intérieur même du mariage, j'entends, hein, et parce que voilà, ne pas respecter dans leur corps, ça retentit aussi sur l'amour conjugal. Donc je crois qu'il faut bien voir l'unité entre le cœur et le corps, entre le lien matrimonial et l'union intime des époux. Il y a une unité, il y a comme une respiration. Alors à chaque couple de trouver sa manière, de trouver son rythme, etc., ça fait partie du dialogue matrimonial. Mais de rappeler que c'est quelque chose de saint. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de beau. On ne grandit pas dans l'amour matrimonial en ayant une vision négative de la relation intime. Comme dire, voilà c'est le devoir conjugal. Ben, faut s'y coller, je m'y colle, et puis bon, et puis voilà, puis ensuite, voilà, une fois qu'il sera calmé, on passera à autre chose, et je me retourne et on dort. Donc, c'est bien, mais bon, c'est quelque part, c'est pas la vocation. C'est au service de l'amour, ça veut dire l'expérience aussi que, après la relation intime, l'expérience que le corps a exulté, le corps s'est dilaté, le corps a eu une joie, au service aussi de la relation elle-même des époux. Donc bien faire ce lien entre les deux, comme une respiration entre les deux. Et sinon on coupe, on est comme si on ne respirait qu'avec un seul poumon. Alors oui, on peut respirer qu'avec un seul poumon, mais ça c'est à cause de la maladie, à cause de x choses. Mais la nature n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas conçue, on n'est pas conçu pour respirer avec un seul, on est conçu avec les deux poumons. Et donc du coup, le faire ce lien que c'est quelque... Et pourquoi on va faire ce lien? Parce qu'on va découvrir la beauté de l'acte conjugal. On va découvrir la beauté de l'acte intime des époux. Et c'est comme ça qu'on va faire le lien. Et on va voir et que à l'intérieur du dialogue matrimonial, eh bien que ça puisse être évoqué, comment on vit ces moments d'intimité. Donc je trouve ça très beau cette parole de dire mais c'est l'homme qui a transformé l'acte le plus saint en œuvre honteuse. Et on voit peut-être plus cet après-midi, mais voilà, le fait du péché originel, on voit bien dans la Genèse, le péché originel, alors que ils étaient nus et n'en avaient pas de honte, c'est-à-dire que l'homme et la femme se voyaient dans la lumière de Dieu et n'avaient pas de honte parce qu'ils se voyaient dans leur capacité de don, dans leur capacité d'amour, alors que après le péché originel, au contraire, il y a la convoitise, la concupiscence, le désir de dominer sur l'autre, de s'approprier le corps de l'autre pour sa propre jouissance, et donc là on le voit comme une œuvre honteuse. Ça veut dire aussi que il faut demander au Seigneur de venir transformer notre regard et de venir sauver aussi. Si Dieu a pris un corps humain, c'est pour sauver le corps humain, qui a une telle vocation, je me permets d'insister, que nous disons dans le credo chaque dimanche, je crois en la résurrection de la chair. C'est-à-dire, je crois que ce corps-là que j'ai, comment ça se fasse passer, je n'en sais rien, parce qu'on n'a qu'une expérience, c'est l'expérience du Christ ressuscité. Bon, et comme on ne l'a pas vu de nos yeux vus, mais c'est un corps glorieux. Mais en tout cas, nous pensons que s'il y a une joie avec Dieu que l'on appelle le paradis, cette joie-là avec Dieu ne peut pas être sans notre corps. Elle ne peut pas être sans notre corps. Hein, parce que c'est saint Thomas d'Aquin qui dit que l'âme séparée du corps, c'est-à-dire la mort, l'âme est dans un état de violence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre âme qui manque, quelque chose dans notre personne qui manque. Nous sommes personnes, nous sommes des esprits incarnés. Nous ne sommes pas des purs esprits comme les anges, nous ne sommes pas uniquement faits de matière comme les êtres minéraux ou végétaux. Non, nous sommes cet alliage d'esprit et de matière. Et donc si on imagine un paradis, et si on pense à une plénitude, c'est aussi avec notre corps. Et avec notre corps aussi, mais le corps vu comme vraiment dans la lumière de Dieu, dans la beauté de... Et on sent bien qu'on est respecté dans son corps, ou alors quand on est, et ça c'est malheureusement tout le drame de la pornographie, quand on découpe l'autre dans son corps. Hein, la pornographie, ce système, c'est on découpe les valeurs excitantes, les parties excitantes, entre guillemets, mais on déconnecte le corps de la personne. La pornographie, c'est ça. Hein, on ne voit que les organes, mais on ne voit pas la personne. Et on n'est même pas intéressé dans la personne. On jouit du corps en dehors de la personne. Et c'est là que ça devient quelque chose de douloureux. C'est quand on n'a plus ce lien entre le corps et la personne. Qu'on dissèque l'autre quelque part, qu'on le coupe en morceaux. Et c'est, je veux dire, assez masculin aussi, hein, de jouir du corps de la femme dans sa tête, parce qu'il le découpe, et donc du coup il y a des fantasmes, etc., et il ne pense plus à la personne, il n'a même plus de visage. Et ça aussi, je suis assez fort dans des pubs, par exemple, les publicités de sous-vêtements féminins, qu'on peut voir ici et là, il n'y a pas forcément de visage. Vous voyez, on ne voit plus le visage de la personne, on ne me montre que les sous-vêtements, et donc voilà, comme si quelque part, la personne qui portait ces sous-vêtements ne comptait pas, c'est pas ça qui est important. C'est, il faut rentrer dans une excitation, dans un fantasme, donc je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est pas comme ça que le Seigneur nous a créés. Hein, donc, je trouve que la vérité, donc c'est de découvrir cet acte le plus saint, encore une fois, ça nous renvoie même à la Trinité, dit Jean-Paul II, parce qu'on est rentre dans une logique de don et d'accueil de don et de rayonnement du don. Hein, c'est accueil de don, rayonnement du don, don, accueil du don et rayonnement dans la fécondité. Fécondité des enfants, mais pas seulement. Hein, ce n'est pas parce que ou vous ne souhaitez plus avoir d'enfants ou vous ne pouvez plus avoir d'enfants qu'il n'y a pas de relation intime. Je suis désolé, la relation intime, elle est, autant que la nature le permet, mais elle est dans la, en tout cas, qu'il y a un langage du corps dans le mariage, qu'il y a un langage du corps. Il faut, on peut pas rester des inconnus, parce qu'on arrive vite, si vous voulez, comme je vous disais, ce témoignage, à une forme d'éloignement, à une forme de, le corps ne ment pas. C'est Jean-Paul II qui a dit quand il est venu en France en 80, il dit le corps c'est le langage le plus fort. C'est le langage le plus fort. C'est pour ça que même si j'ai parfois l'impression de prêcher dans le désert quand je m'adresse aux jeunes et en particulier aux jeunes fiancés, je leur dis d'attendre d'avoir cette relation intime parce que il y a d'autres formes d'intimité à partager avant de partager ce langage du corps qui est l'intimité la plus forte. Et le mariage chrétien, par exemple, c'est intéressant de voir comment est conçu le mariage chrétien. Le mariage chrétien, c'est le corps qui va exprimer une parole. Hein, cette parole, c'est la parole dite dans le sacrement, la parole exprimée dans le consentement des époux, qui va s'exprimer dans la relation intime du corps. Ça incarne l'engagement pris par les époux. Hein, et ça rayonne ensuite dans la fécondité, que l'amour matrimonial, la fécondité des enfants et la fécondité du couple en général. Il n'y a pas que les enfants dans la fécondité du couple. Il y a leur amour, l'amour est fécond. Hein, et donc du coup, un couple qui s'aime, un couple de 70 ans qui s'aime, il est fécond. Parce que leur amour rayonne. Hein, et voilà, donc je crois que c'est important de nous rappeler ça, quoi, de cette... donc il y a la parole, il y a le corps, il y a la fécondité. Parole, corps et fécondité. Et donc, du coup, je crois que... et quand vous regardez ça, par exemple, ça vous fait penser à l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, comment est construite l'Eucharistie? Elle est construite comme ça. Au fond, c'est l'ordre de l'amour, au fond. Il y a d'abord la liturgie de la parole. Ensuite, il y a la liturgie du corps, dans la consécration eucharistique. Et ensuite, il y a la fécondité... le fait de la communion, hein, la fécondité, aller dans la paix du Christ, voilà, c'est cette fécondité spirituelle, apporter Dieu au monde, etc., etc. Donc du coup, de faire bien cela. Et quand on voit, par exemple, comment Dieu veut manifester son amour, d'abord, il le manifeste par la parole, par sa parole, donc par les prophètes, hein, par sa parole. Ensuite, il le manifeste par son verbe, et son verbe qui se fait chair, qui prend un corps humain, et ce verbe qui se fait chair, eh bien, il veut demeurer parmi nous par son Esprit Saint, la fécondité. Donc, parole, corps, fécondité. C'est l'ordre de l'amour. Alors, aujourd'hui, on fait les choses un peu... c'est le tiercé dans le désordre, si j'ose dire. Donc, on fait les choses... mais je trouve qu'à travers ça, il y a quelque chose qui nous dit comment est-ce que le Seigneur conçoit l'amour ? Parole, corps, fécondité. Hein, et de même, c'est pour ça que j'invite dans la préparation au mariage de ne pas aller à l'intimité des corps, parce qu'il y a d'autres, quelque part, c'est tellement fort que ça ferait qu'on ne serait pas assez attentif aux autres formes d'intimité, intimité spirituelle, intimité intellectuelle, culturelle, affective, etc., etc. Donc, je crois que c'est... mais vous voyez bien comment notre société, qui est quand même très sexualisée, très érotisée, n'est pas du tout dans cette dimension de... Parce que pour cette société, le corps, au fond, c'est qu'un amas de cellules. Et on le voit aussi dans ce corps-là, on le voit aussi dans la conception de la de l'embryon, par exemple, dans la conception même la conception des personnes qui sont en fin de vie. Voilà, c'est ce corps-là, bien sûr, que cette personne-là peut pas s'exprimer, mais le corps n'a pas de vocation. Le corps n'a pas de il est déconnecté. C'est ce qu'on appelle le dualisme. Il est déconnecté de l'âme. Il est déconnecté de la personne. Voilà, c'est ce que je fais avec mon corps, mais quelque part, ça n'a pas d'implication. Hein, c'est ou alors on prend ça comme un acte simplement demandé par la nature, comme le fait de respirer, comme le fait de la circulation sanguine, comme le fait de la digestion, bien la sexualité. Mais la différence entre ces différents actes, la digestion, la respiration, la circulation sanguine, etc., ce sont des actes qui se font sans notre consentement, sans notre volonté. Alors que la sexualité demande le consentement, et le consentement de l'autre, et demande la volonté. Ça se décide. Ça demande à la fois une connaissance de son corps, et à la fois un acte d'amour, un acte d'intelligence, et un acte d'amour. Donc c'est tout à fait... ce n'est pas parce que ça vient du corps que c'est simplement pulsionnel et que ça nous échappe. Vous comprenez, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place dans la... mais ça vient du péché originel, c'est le fait de ne pas comprendre au fond que ce lien entre l'âme et le corps. On est dans ce qu'on appelle un dualisme. On sépare. Ce que je vis avec mon corps, mais bon, voilà, je le vis, mais ça, au fond, ça n'a aucun impact sur ma personne. Hein, voilà, ça n'est pas... De même, le corps de l'autre qui est là, qui est en fin de vie, qui est très lourdement handicapé, le corps de l'autre qui est là, mais bon, on dira, ben, c'est un légume. Bon, vous entendez parfois cette... mais pour nous, un corps n'est jamais un légume. Mais cette personne-là, c'est un légume. Ah, peut-être elle ne peut pas s'exprimer, peut-être elle est dans un état qu'on appelle neuro-végétatif. Oui, peut-être, il n'y a que les fonctions vitales qui sont là, mais nous croyons qu'à travers le corps de cette personne, eh bien, toute la personne qui est là. Toute cette personne. Donc, vous comprenez, c'est une vision, que ce soit dans l'acte intime des époux, ou en fin de vie, ou au tout début de la vie, nous croyons que le corps dit la personne. Et l'expression du don de la personne. Hein. Donc je continue là. Donc on est au deuxième paragraphe. Hein, vous voyez. Mais la sexualité, vous y êtes là. Mais la sexualité vécue dans sa finalité. Je ne sais pas si vous y êtes. Mais la sexualité vécue dans sa finalité est belle, voulue par Dieu comme un signe de son don. C'est pour cela qu'il faut avoir une connaissance de son propre corps et de celui du conjoint pour réaliser le dessein de Dieu. Chacun doit voir comment le désir de l'union naît dans l'autre. Cette union ne doit pas être laissée à la spontanéité de l'instinct, mais se réalise dans l'intelligence de l'autre. L'épouse redit son oui au mariage dans la chair en disant « viens », qui est le signe de l'union que l'union peut se réaliser. « Viens », c'est le mot de l'épouse qui répond à l'initiative de l'époux, c'est le mot de l'Église. C'est très beau, ça. C'est, au fond, apprendre aussi, il y a ce partage d'intimité, surtout pour la femme qui se prédispose, c'est ce qu'on appelle les préliminaires dans la relation intime, ben, d'avoir cette prédisposition, d'avoir cette... Elle est disposée, elle est accueillante à son époux, hein, et le mot vient, voilà, c'est vient, c'est le mot de l'épouse, c'est le mot de l'Église, hein, c'est le mot de l'Église, et c'est très beau aussi de vous, hein, l'époux et l'Église disent viens Seigneur Jésus, vous connaissez, c'est dans Apocalypse, hein, donc c'est parce qu'on a appris, c'est là où ça demande à une connaissance du corps, on a appris comment fonctionnait le corps de l'autre et comment fonctionne son propre corps. Et comment le désir intime se réveille petit à petit. Et ça demande de la patience. Ça demande de la patience, ça demande en même temps de l'intelligence et de la confiance. Il y a une forme, peut-être plus chez la femme certainement, mais une forme parfois de peur de la véhémence, une peur d'être utilisée dans son propre corps. Une peur de chez la, par l'homme, hein, une peur d'être quelque part, oui, c'est ça, instrumentalisé. Ça veut dire que le corps demandera aussi, l'union intime des époux demandera aussi que il y ait un climat de confiance entre les époux. Il est pratiquement, je veux dire, autant l'homme, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour que ça démarre, mais pour la femme, ça n'est pas du tout comme ça. Ça demande une préparation, une prédisposition, un abandon, une confiance. Ça veut dire, ça renvoie aussi à la relation en général. Oui, il faut toujours voir les choses dans l'unité. C'est pas simplement, la relation intime, c'est pas simplement quand on est ensemble dans le lit. C'est pas ça la relation intime. La relation intime, elle se prépare, je veux dire, au petit déjeuner, par les cadeaux, par les actes d'attention, par l'affection, par la tendresse, qui prédispose chacun à la confiance. Et il est impossible, pour en avoir eu des témoignages, surtout pour une femme, il est impossible de se donner dans son intimité, s'il y a eu une engueulade, s'il y a des grosses tensions dans le couple, etc. C'est impossible. C'est impossible. Parce que, malgré toute la bonne volonté, elle n'y arrive pas. Parce qu'elle est faite Elle est faite pour l'amour, donc ça veut dire que cette union intime soit entourée aussi d'un acte, d'une relation de confiance, d'une relation habituelle d'amour. Oui, c'est moi, ça me paraît de plus en plus clair. Ça me paraît de dire, au fond, ça demande, c'est quelque part, ça, le corps manifeste, comme je vous ai dit, hein, cette parole de Jean-Paul II, rend visible l'invisible. Il manifeste. Et c'est l'épiphanie. Hein, il manifeste quelque chose du couple. Oui, c'est ça. Vous êtes à la deuxième page. Les gestes de l'amour conjugal mettent en jeu toute la personne et pas seulement les organes génitaux, c'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas seulement la satisfaction d'un besoin de plaisir ou de reproduction, une vision hédoniste contre laquelle s'oppose le Saint-Père. Il s'agit de quelque chose de sacré qui entraîne le don du mystère de l'autre. D'autres gestes réalisés par le corps montrent aussi un don et sont le fruit d'une interprétation culturelle pour qu'ils soient compris. Gestes de dévouement, d'amitié, de prière, d'imploration ont besoin du corps pour s'exprimer. Mais ils ne sont pas d'institution divine. Le don total du corps à l'autre est le moyen adéquat et le seul pour témoigner d'un amour radical. Hein, voilà, c'est quelque chose qu'ils ne feront qu'une seule chair. C'est une volonté de Dieu. C'est d'institution divine. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'une seule chair. Cette unité de... Et Jésus le rappelle, c'est assez intéressant hein, par rapport à la... rappelle cette volonté, parce que dans l'unité de l'homme et de la femme, créée à l'image, à la ressemblance de Dieu... Il y a quelque chose de l'unité qui est en Dieu, quelque chose du Dieu un qui est manifesté. Il y a une dimension transcendante, je veux dire, il y a cette unité-là, ce n'est pas simplement pour satisfaire, comme il est dit, voilà, des pulsions ou quoi que ce soit. Bien sûr, le désir a été mis pour témoigner de cet amour un qui est en Dieu et dont l'homme et la femme sont le signe. Et signe, ça veut dire quoi? Signe, c'est ce qui a formé le mot sacrement. Et donc, dans le sacrement du mariage, vous êtes le signe visible de quelque chose d'invisible. Vous témoignez de façon visible l'amour invisible de Dieu. Comment est-ce que je peux voir et je peux connaître l'amour de Dieu? Ben, quand je vois Gertrude et Gaston qui se marient, il y a quelque chose de l'amour de Dieu. C'est pas tout l'amour de Dieu, bien sûr, mais chaque couple, quand il vit sa vocation dans l'amour et dans la confiance, et, ben, chaque couple exprime quelque chose de l'amour de Dieu, est une facette de l'amour. C'est pour ça, entre autres, que il n'y a pas de c'est indissoluble. C'est pour ça que c'est parce que c'est un sacrement, cette union entre les deux est signe de quelque chose de transcendant. Et l'amour de Dieu pour nous est de toujours à toujours. Et donc, du coup, forcément, cet amour-là. On ne dit pas, ben voilà, maintenant c'est fini. Non. Alors, ça demande aussi une vie de foi, ça demande une préparation, etc., etc. Mais ben, je crois, en tout cas, ça me paraît assez logique. Ça me paraît, de dire, voilà, il y a des gestes qui impliquent le dévouement, qui impliquent l'amitié, la prière. La prière, on prie aussi avec son corps. Mais il n'y a rien qui implique autant le corps que la relation intime. De fait, pour tout, ben, il faut son corps. Pour venir ici, pour écouter une conférence, il faut son corps. Voilà, pour tous les actes de la vie quotidienne, il faut son corps. Mais il n'y a rien qui dise quelque chose d'aussi fort et d'aussi nous fait rentrer autant dans le don que la relation intime. Je crois que c'est bien de se le rappeler, quoi. Ce désir de communion se traduit dans le désir de ne faire qu'une seule chair. Ce don se réalise s'ils s'unissent selon le plan et le vouloir divin que Dieu a imprimé dans leur chair. Là encore, il y a quelque chose d'objectif dans le corps humain qui montre une manière de se donner. Je reçois cette manière de me donner à l'autre par mon corps, je ne la décide pas. c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quelque part, le fait d'avoir des corps sexués nous dit, nous indique, c'est la réalité de nos vies, nous indique une manière de nous donner l'homme pour la femme pour l'homme. Alors même si les lois humaines peuvent dicter ce qu'elles veulent, mais il y a quelque chose d'objectif dans l'amour. Il y a quelque chose qui s'enracine dans la nature de la personne humaine. Je reçois cette manière de me donner, je ne la décide pas. Ça veut dire c'est comme c'est important, je dis ça par rapport à l'éducation, d'éduquer les jeunes, les enfants, etc., cette conférence elle est pour vous peut-être, mais elle est aussi pour ceux dont vous avez la charge comme mère, comme grand-mère, etc., pour avoir des paroles, parce que parfois ce qui manque dans l'éducation sexuelle c'est les paroles, on ne sait pas forcément exprimer. Comme c'est important dans l'éducation de faire grandir l'autre dans une vision positive de son corps, garçon ou fille, hein, et d'avoir une vision positive du corps, ce qui fait qu'on aura une vision aussi positive de l'union intime des époux, et non pas dans la peur ou en voyant que c'est sale sans grand enthousiasme parce que c'est le devoir conjugal. Je crois que au contraire c'est le fait de grandir dans une vision positive et je crois que la parole du père entre autres est très importante hein, même dans l'éducation des filles, la parole du père est très, parce que quel est le premier regard d'homme qu'une femme rencontre si ce n'est le regard de son père? Et je crois que c'est très important que le père confirme, au fond, sa fille, hein, dans sa féminité. Et en lui disant qu'elle est belle, en lui disant, et on voit bien comment ce jeu de séduction des petites filles avec leur papa, etc., etc. Mais c'est important, justement, parce que c'est ça qui va donner confiance à la fille dans sa féminité, et de voir que c'est quelque chose de valorisé. Hein, de même aussi pour le garçon, la parole du père, de vouloir être comme papa, papa c'est le plus fort, je vais être un champion, etc. etc. Bon, cette parole du père va le confirmer dans sa masculinité. Je crois que c'est l'éducation aussi passe par le corps. Je dis ça parce que surtout en France, on a cette manie de trop intellectualiser les choses, on est coupé de notre corps, avec l'ami Descartes. Ça vient beaucoup de Descartes, d'être cartésien. Alors, être cartésien, c'est plutôt un bon... On dit quelqu'un, vous savez, je suis très cartésien, ça veut dire qu'il est très intello, etc. Mais où est-ce qu'il en est de la relation avec son corps? Où est-ce qu'il en est de la relation avec ses émotions? Parfois, c'est le calme plat, c'est... Il n'y a rien. Et on est trop coupé. Dans d'autres cultures, vous voyez, dans les cultures africaines, par exemple, il y a beaucoup plus ce lien entre le corps... Et il y a beaucoup plus cette facilité de s'exprimer avec son corps, etc. On intellectualise beaucoup moins les choses. Et je trouve qu'il faut retrouver dans l'éducation cette unité, parce qu'on est âme et corps, cette unité, encore une fois, qui fait que je vais découvrir aussi dans mon corps quelque chose. Je suis à la ressemblance de Dieu dans mon corps. Et tout dans mon corps est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Il n'y a rien de sale, là. Et donc, du coup, d'avoir des paroles aussi pour vos enfants ou petits-enfants, etc., d'avoir cette simplicité et en même temps cette simplicité et cette vérité, quoi, et en même temps de rappeler la finalité, parce que il y a le désir qui est là, etc. Mais si on ne rappelle pas la finalité, du coup, on dit à ce désir-là à quoi il sert, quoi, c'est quoi l'objectif? Ce désir, c'est pour la communion. C'est pour la communion avec la femme, avec la femme ou l'homme, etc. Ce désir est au service de la communion. C'est pas simplement quelque chose, une pulsion qu'on ne contrôlerait pas et qui... Les gestes visibles. de l'amour conjugal rend visible l'amour invisible de Dieu pour la création. Ce n'est pas seulement un acte biologique, c'est un acte sacré qui requiert ce qui est le plus spirituel dans l'homme, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Ce que j'ai déjà dit, le fait de connaître son corps, connaître le corps de l'autre, et en même temps un vrai acte d'amour. Les époux sont porteurs d'un message. L'humilité de Dieu a voulu s'inscrire dans la matière, y révéler son amour et la vocation de l'homme et de la femme. Le péché a entraîné de graves désordres, mais l'homme et la femme, dans le cœur de Dieu, restent avec cette même vocation. C'est une vocation, ils ne feront qu'une seule chair, c'est le désir du Seigneur sur l'homme et de la femme. C'est-à-dire que ça n'a pas été l'union intime des époux n'a pas été conçue comme quelque chose de mauvais. Et Dieu vit que cela était bon, et même très bon, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, très bon. Donc là encore, à nous de dans notre tête, de grandir dans cette bonté de l'acte intime et de la bonté du corps en général. En aucun cas, on doit voir les joies sexuelles, lorsqu'elles sont vécues dans leur finalité, comme quelque chose de sale. Il arrive parfois, souvent là, à la femme, de croire que le plaisir sensible est impur et qu'il faut préférer une spiritualisation de la relation avec son conjoint. On croit que la chasteté est supérieure au mariage parce qu'on renonce aux joies sensibles de la chair. Il faut se garder de penser cela. Le plaisir a été mis dans la chair par le Créateur. Le plaisir est de sa nature un acte du corps, mais aussi signe d'un acte profondément humain. L'intensité du plaisir révèle l'intensité de la communion des personnes, ne serait-ce qu'un instant, celui où les corps exultent. La chasteté parfaite n'est pas la négation du mariage, mais elle laisse entrevoir que l'humanité est faite pour se donner à Dieu comme époux. Le consacré renonce à ce qui n'est qu'un signe pour vivre la réalité signifiée, la vivre dans sa chair, le bonheur du royaume où on ne prend ni mari, ni femme ni mari, Matthieu 22, 30, le mariage est un signe caché dans la chair qui enseigne aux époux le sens véritable de leur joie. Voilà, je trouve ça très beau, cette partie-là où justement on dit, attends, parfois chez la femme il y a cette tendance à spiritualiser les affaires, il n'y a qu'à voir le nombre de participantes aux haltes spirituelles, femmes et hommes, pour voir tout de suite que la spiritualité n'occupe pas forcément la même place chez l'une ou chez l'autre. Donc, mais ce serait quelque chose, à mon avis, de pas en place, que de dire, au fond, voilà, je préfère les joies spirituelles aux joies charnelles. C'est très bien dit, que c'est quelque chose d'impur, etc. Non, c'est au contraire, je rends gloire au Créateur dans l'union intime des époux. C'est un acte profondément spirituel, chrétien. C'est-à-dire cette spiritualité, elle est incarnée. Elle est incarnée. Et c'est le message chrétien. Le message chrétien, c'est un message d'incarnation. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, c'est un message d'incarnation. C'est pas un message de spiritualité déconnectée du corps. C'est comme par exemple dans le bouddhisme où on voit justement où il faut sortir de son corps justement parce que le corps est sortir des désirs et puis mais parce que dans le bouddhisme la notion de personne n'est pas présente, même le verbe voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas par exemple dans le bouddhisme il n'y a pas de résurrection, il parle de réincarnation. Mais ce qui, à mon avis, ne veut strictement rien dire, bon, tout en étant respectueux des traditions de chacun, mais parce que mon corps, c'est mon âme qui a façonné mon corps, et mon corps a façonné mon âme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vécu une maladie, forcément, sa propre âme, c'est-à-dire son courage, sa sensibilité, a été façonnée par cette maladie que cette personne a vécue. Et de même, on voit aussi que le corps retransmet quelque chose de la personne, exprime aussi l'intériorité, l'âme. Donc, on est fait. Donc, il ne peut pas y avoir de réincarnation dans quelque chose. Il y a fortiori qui ne soit pas humain. Bref. On n'est pas là. Je ne suis pas très doué pour le dialogue interreligieux, je veux dire. Mais bon. Bon, on respecte tout, voilà, parce que sinon, on est un méchant si on ne respecte pas. Donc, mais bon, je fais juste une constatation que je trouve que le message chrétien est beaucoup plus cohérent. Bon, ça tombe bien, vous me direz, mais je trouve ça plus cohérent parce que, quelque part, ça renvoie aussi à une expérience commune entre l'unité de l'âme et du corps. C'est une expérience commune. C'est, voilà, je vous parle, etc. Mais je viendrai, je vous mets la main sur l'épaule, c'est tout à fait autre chose. On entend, mais si on le toucher, c'est pour ça que le toucher est certainement le sens le plus fort. Hein, dans la relation avec l'enfant, par exemple. Hein, ou comme dans la relation matrimoniale. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Nous continuerons cet après-midi avec un peu les menaces sur l'amour. On voit la beauté de ce à quoi on a appelé, mais en même temps, on voit qu'il y a des menaces qui pèsent sur cette vocation du corps et cette beauté de la relation conjugale.